Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
On va parler d'islamophobie. C'est un concept qui est sur toutes les lèvres avec la nomination d'Amira El-Gawabi comme conseillère spéciale en matière d'islamophobie au Canada. C'est une nomination qui fait pas l'unanimité, c'est le cas de le dire, au Québec. Pourquoi? Parce que Mme El-Gawabi a prononcé des généralisations assez choquantes sur les Québécois au fil des années. Mais l'islamophobie, ça existe et on l'a vécu au Québec. Il y a 6 ans, il y a quelques jours, là, il y a un désaxé qui est entré à la Grande Mosquée de Québec et qui s'est mis à tirer sur des fidèles. On sait le résultat. Plusieurs blessés, dont certains blessés qui vont emporter les stigmates toute leur vie. 6 décès aussi. On va parler avec Boufeldia Ben Abdallah, qui est cofondateur et porte-parole du Centre culturel islamique de Québec. Monsieur Ben Abdallah, merci d'être avec nous.
Merci, Monsieur Lagacé. C'est un plaisir.
Plaisir réciproque. Écoutez, d'abord, on va parler des 6 ans des commémorations. 6 ans plus tard, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à l'après-attentat?
L'après-attentat, on constate que les familles sont plus calmes, moins... c'est-à-dire que la vie a repris, la vie coule, les gens s'occupent de leurs enfants... Mais quand vient le moment de se rappeler le mari ou le blessé ou celui qui est encore en grande difficulté sur sa chaise ou les rescapés, ben c'est des moments un peu difficiles. C'est tout à fait normal, tout à fait normal. Mais les gens sont reconnaissants encore, je vous avoue, quand je discute avec certains, reconnaissants de la gentillesse dont les ont entouré les gens, les voisins, tous les amis du Québec dans lesquels ils sont maintenant des citoyens à part entière, voilà.
C'est triste
un peu.
Oui, évidemment. Les gens à qui vous parlez, qui ont vécu l'attentat, se sont sentis soutenus par la communauté à Québec?
Absolument. Jamais un n'a oublié ça. Jamais n'a oublié. À chaque fois qu'on se rappelle, on a aussi l'émotion parce que c'était grandiose, est-ce qu'on peut dire, on pensait pas à ça, mais c'est venu comme ça, une grande bouffée de chaleur en plein hiver à moins 40, comme on dit. Ça a réchauffé le corps, l'esprit, les gens, on pleurait ensemble, même après on a ri ensemble. Et ça, on peut pas l'oublier. Non, impossible de l'oublier. Et ça m'a, moi personnellement, ça m'a montré que le bon dans mes concitoyens est meilleur que le mauvais que certains perçoivent. C'est très important que l'on sache ça. Et il y a le Québécois, et la Québécoise, ce sont des gens qui ont la main sur le cœur. Et ils nous le démontrent à chaque fois. La preuve, dans cette commémoration, il y a des gens qui sont venus encore pour... il y a eu une semaine de porte ouverte de la mosquée pour voir, pour discuter et tout. Moi, dans les rues, je rencontre les gens, je vais dans des rencontres. C'est unanime que les gens disent... Non, nous ne sommes pas de ces gens de violence. Dommage que c'est arrivé, mais vous êtes dans un pays comme nous, vous êtes nos concitoyens mondiaux. Alors, plus que ça, plus que ça, tu meurs. C'est pas possible qu'on ait plus que ça. Je tiens à reconnaître ça et à remercier tous les jours les gens qui nous ont entourés.
J'étais à Québec le lendemain en reportage et vous avez raison de le rappeler, il faisait froid. Il devait faire moins 25. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là.
Ouais.
Et je me demandais, vous avez répondu à la question, mais j'aimerais ça élaborer un peu là-dessus. Ces démonstrations-là ont eu un effet. Ça a touché le cœur des gens qui étaient éclaboussés par ce qui s'était passé.
Ah oui. Mon Dieu, c'était moi j'ai encore la chair de poule, c'était extraordinaire. Imagine, on était des milliers, moi j'étais comme tout le monde, hein. Je déambulais avec mon épouse, avec les amis, on tournait, on rencontrait au fur et à mesure des gens autour. On circulait entre l'église et la mosquée, imaginez, c'était aussi un symbolisme extraordinaire. Et on n'avait pas froid. On avait cette impression que c'était un grand mouvement de masse, de solidarité, pour un moment de grande inquiétude et de chagrin. Je pense que je le souhaite que ça n'arrivera plus, mais que ça arrivera dans des moments de grand plaisir pour montrer encore une fois qu'on est solidaire.
Monsieur Ben Abdallah,
c'est arrivé et j'étais témoin de ça.
Monsieur Ben Abdallah, quand vous allez à la mosquée, est-ce que vous avez peur?
Ah, les premières années, je vous avoue, pas une peur, mais j'étais un peu agacé à chaque fois qu'il y a quelque chose faisait du bruit derrière mon dos à la mosquée. Je me retournais, je regardais. J'étais pas le seul. Et petit à petit, cette crainte s'en allait. Ben, chez moi, la police a installé des caméras de surveillance chez moi. Parce que j'ai eu des bêtises, des écrits, etc. Non, je vous raconte pas. Ça sert à rien, c'est passé. Les gens étaient, certains étaient fâchés. Et c'est cette faction, monsieur Lagacé. C'est cette faction méchante qui, même dans le deuil, arrivait à nous embêter, à nous insulter, etc. Et c'est cette partie qui pousse certaines personnes à faire l'amalgame. Donc, ceux-là, on leur dit, vous n'avez pas à faire ça dans un pays avec vos concitoyens qui ne cherchent que la paix. Même vos frères, même vos gens de famille, peut-être qu'ils ne sont pas comme vous. Arrêtez de faire ça. Nous sommes encore dans le deuil et vous m'insultez. Mais pourquoi? Ça ne sert absolument à rien. Mais ce n'est pas la majorité, ce n'est pas tous les jours, il faut reconnaître, ce n'est pas toute la population, jamais. Et moi, j'ai toujours dit que la population, jamais toute la population est islamophobe ou toute la population est raciste, mais une sacrée partie, petite, mais qui parle plus que tout le monde, plus que moi, M. Lagacé.
Je voulais vous entendre justement sur la saga de la nomination d'Amira El-Gawabi comme commissaire à l'islamophobie par le gouvernement fédéral. Vous avez pris connaissance de ses propos sur le Québec, les Québécois. Notamment, elle a dit que la majorité des Québécois semble portée non pas par la primauté du droit, mais par un sentiment anti-musulman. Comment vous avez reçu ces déclarations-là?
Ben moi, j'ai dit qu'elle n'a pas eu de recul pour dire ça. C'est vraiment... Moi aussi, quand j'ai vu ça, je me suis hérissé. J'ai dit, waouh, tout ce qu'on a gagné en terrain de reconnaissance et de générosité et de tranquillité, on risque d'avoir encore des coups derrière la tête. C'est quoi cette histoire? Mais elle l'a dit dans un moment, peut-être elle aussi, de colère, de fureur. Et normalement, ça ne doit pas être dit. Normalement, ça doit être dit. Le peuple québécois n'est pas un peuple islamophobe. Il y a une graine qui est islamophobe. Le peuple québécois n'est pas raciste. Il y a une graine qui est raciste. Il ne faut pas laisser cette graine s'étendre. C'est ça qu'il fallait dire. Il fallait dire qu'elle n'est pas. Mais maintenant qu'elle a dit la bêtise, qu'elle a dit et qu'elle a fait constriction et puis qu'elle s'est excusée clairement, parce que nous, on l'a appelée hier.
Ah oui?
On a fait une réunion. Hier, oui, après la motion, on s'est réunis. On était une dizaine à la motion. Après la motion, on s'est réunis puis on a dit, il va falloir qu'on la rappelle. Donc, on a chargé deux ou trois personnes pour l'appeler, pour lui dire, écoutez, madame Amira, dites-le clairement, pas dire, ah, vous m'avez pas compris, blablabla. Ça, c'est fait. Tu as dit des choses, et puis, bon, tu penses qu'on n'a pas compris, mais les gens ont compris à leur façon. Ils ont le droit de comprendre à leur façon. Mais là, vous dites-le clairement, vous vous excusez pour ce que vous avez dit. C'était pas votre intention, mais vous vous excusez, et nous, on peut vous soutenir pour tourner la page et continuer à travailler. On va vous faire confiance.
Monsieur Ben Abdallah, c'est un symbole qui est fort que vous relatez là. Les gens de la mosquée de Québec qui ont été la cible du pire acte islamophobe au Québec ont appelé Mme El-Gawabi pour lui dire « change de discours ».
Exactement. Et ce n'est pas honteux que quelqu'un fasse une bêtise et qu'il se fait rappeler par son frère ou sa sœur de lui dire tu as fait une bêtise ou tu as peut-être pas intentionnellement, mais corrige et sois clair. Donc on lui a dit corrige et sois clair, ma sœur Amira. Et elle nous a écouté. Et je pense qu'elle a écouté aussi votre personnalité. On n'est pas les seuls. C'est pas la quintessence, nous. Mais elle a écouté le chef du Bloc québécois. Et il a été raisonnable, probablement, qu'il lui a dit des choses. Lui qui ressent peut-être beaucoup plus que nous le sentiment très québécois et très nationaliste. Donc, elle s'est rendue compte qu'il fallait le faire. Elle l'a fait. Maintenant, M. Lagacé, je ne sais pas si votre question va venir sur ce plan, tout individu qui reconnaît une faute reconnue à moitié pardonnée, je ne sais comment on dit, mm-hmm. excusez, je suis en train de me mêler. l'essentiel maintenant est qu'on accepte qu'elle s'est excusée et que maintenant on donne... Moi, j'ai appris ici l'expression « donner la chance au coureur ». Si elle a fait contradiction, une grande personnalité comme elle et qu'elle va travailler, on va la juger sur le résultat dans 6 mois, 3 mois, 1 an, etc. Et puis là, il faut qu'elle livre la marchandise.
Monsieur Ben Abdallah, c'est toujours un plaisir de vous parler et de vous entendre parler. Saluez les gens de la mosquée pour nous.
Je vous en remercie. C'est un plaisir aussi de vous parler, Monsieur Agassé. Et madame aime beaucoup vos commentaires et votre brio professionnel. Merci infiniment.
Merci, c'est gentil d'être à l'écoute. Merci. C'était Boufeldia Ben Abdallah, qui est cofondateur et porte-parole du Centre culturel islamique de Québec, l'endroit où, évidemment, la mosquée a été ciblée par un désaccès en 2016. Désaccès qu'on va persister à ne pas nommer.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé, en accéléré.
Pour commencer la deuxième heure, je veux faire le point sur l'affaire Amira El Gawabi. Elle a présenté une forme d'excuse aujourd'hui en marge de sa rencontre avec le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet. On va l'écouter.
Je veux dire à les gens québécois, je vous ai entendu, je vous ai écouté et je comprends les effets de mes mots. Et je veux vous rencontrer, je veux entendre plus, je veux bien comprendre l'histoire québécoise. Et je voulais bien comprendre comment est-ce qu'on peut avancer une société qui est plus inclusive.
Personnellement, je trouve que c'est bien peu, bien tard. Moi, je suis en faveur de ça, les excuses. Cependant, le problème est ailleurs. Le problème, c'est que comme citoyenne, comme activiste, à plusieurs reprises, sur plusieurs années, Mme El Gawabi a fait des généralisations absolument honteuses sur le Québec. Les Québécois, on est comme d'autres groupes, comme d'autres sociétés. On est pluriel. On a différentes vues. On a différentes opinions sur différents enjeux. Comme toutes les sociétés, comme tous les groupes, il n'y a pas une société, il n'y a pas un groupe humain où il y a qui a une position ou un défaut partagé par tous ses membres. Quand on tombe là-dedans, quand on dit les Noirs sont, quand on dit les Ontariens sont, quand on dit les Africains sont, tu tombes, t'approches là, tu mets le gros orteil dans la mort de la xénophobie, des généralisations xénophobes, disons ça comme ça. Et c'est ça le péché de Mme El Gawabi. C'est ça qui a heurté tellement de Québécois, c'est le fait qu'elle a, à plusieurs reprises, attribué à un groupe, les Québécois, une tare collective, ici, l'islamophobie. Et c'est en soi une forme de xénophobie socialement acceptable dans une certaine élite multiculturaliste hors Québec, je dirais. Je vise pas un groupe, je vise des gens qui partagent les mêmes idées. Que de penser que le Québec est plus intolérant que les autres. Ça remonte très loin dans la Confédération. Ça, c'est pas très, très nouveau. Là-dessus, on va écouter Justin Trudeau, le premier ministre aujourd'hui, qui s'est présenté devant les journalistes là, dans un point de presse impromptu. Il a défendu Mme El Gawabi. C'était juste avant sa rencontre avec M. Blanchet.
Je pense que ça démontre à quel point c'est une personne sensible qui est ouverte aux préoccupations des autres, qui veut justement bâtir des ponts dans un dossier qui est difficile. Il y a beaucoup de travail à faire et elle est la bonne personne pour le faire.
Bon, je vous laisse juger. Clairement, la femme qui l'a choisi, M. Trudeau, comprend pas certains faits de base. Par exemple, il a dit, écoutez, c'était une activiste, elle a dit ça quand elle était activiste. Puis là, bon, je me rappelle pas des propos exacts de M. Trudeau, là, mais ça allait dans ce sens-là. Vous savez, quand on est un activiste, on parle fort, puis des fois, on utilise des images qui sont fortes. Je veux bien. Mais si Mme El-Gawabi avait dit ça à propos des Juifs, des Noirs, des Autochtones, elle n'aurait jamais même été considérée pour ce poste-là. En passant, on a demandé une entrevue avec Pablo Rodriguez, député libéral fédéral, ministre aussi. Il est le lieutenant québécois de Justin Trudeau. C'est lui qu'on envoie au bâton pour défendre les politiques du gouvernement. D'habitude, souvent, M. Rodriguez, je dois le dire, répond présent. Pas disponible hier, pas disponible aujourd'hui. Pas disponible demain. On s'est renseigné, même demain, il n'est pas disponible. Je vous laisse tirer vos propres conclusions. Mais je dois vous dire, je le comprends un peu, M. Rodriguez, de rester caché. C'est difficile à expliquer le fait que le Parti libéral du Canada soit aussi divorcé du Québec. À sa place, moi aussi, j'éviterais les entrevues. Moi aussi, je ferais la tortue, j'attendrais que la tempête passe. Maintenant, je veux parler de Québec solidaire. Écoutez, il n'y a pas un parti qui a 100% dans son bulletin à tous les jours. Tous les partis se plantent, tous les partis mettent le pied sur des pleurs de bananes politiques. Mais je dois dire, j'ai rarement vu ces derniers jours, j'ai rarement vu Québec solidaire avoir l'air aussi fou que dans la saga de Mme El-Gawabi. Ça vient jouer, il faut le dire, dans les contradictions de Québec solidaire. Le nationalisme, c'est pas la tasse de thé de Québec solidaire. À peu près toutes les formes de nationalisme. Québec solidaire, c'est un parti multiculturaliste qui est vraiment pas nationaliste, un peu à la NPD. Je sais que les gens de Québec solidaire aiment pas ça, mais l'exemple, c'est ça. C'est un NPD québécois. C'est pas bien, c'est pas mal d'être plus multiculturaliste, de craindre le nationalisme. Québec solidaire a le droit d'être ce qu'il veut, mais c'est un fait. Le nationalisme, ça se mêle assez mal avec QS, mais c'est plate. Quand on est québécois, depuis toujours, on n'a pas vraiment le choix comme collectivité, comme gouvernement, d'être minimalement nationaliste dans ce pays-là. Quand on vote des lois pour protéger le français, c'est un geste nationaliste, c'est un geste d'affirmation. Quand on décide d'avoir des délégations à l'étranger, c'est un geste nationaliste. Quand on a décidé d'avoir notre rapport d'impôt, c'est un geste nationaliste. Il y a différentes formes de nationalisme, mais le Québec n'a pas le choix que de l'être. Parce qu'on est ce qu'on est, un peuple très minoritaire en Amérique du Nord, dont le français est le socle. Si t'es pas nationaliste dans cette position-là, tu vas te faire bouffer. Et écoutez, je regarde aller Québec solidaire dans la saga El-Gawabi, et on peut dire que Québec solidaire est aussi nationaliste que Philippe Couillard, le chef libéral, l'était, c'est-à-dire pas pantoute. Québec solidaire a eu l'air fou trois fois en particulier dans les dernières heures. D'abord, quand un nouveau député, là, M. Arun Boisy, est allé dire qu'en montant au créneau pour dénoncer Mme El-Gawabi, le gouvernement de François Legault voulait faire diversion. Ça, c'est vraiment de la foutaise. Il arrive que des gouvernements fassent diversion pour changer, disons, l'agenda politique quand ils sont dans le pétrin. Ils sont pas dans le pétrin, présentement. Ils viennent d'être réélus avec une grosse majorité. Et quand t'es au gouvernement, tu diriges le gouvernement du Québec et qu'il arrive une situation comme ça où une femme nommée par le fédéral comme Mme El-Gawabi s'essuie les pieds sur les Québécois, il faut que t'ailles au bâton. Pas Justin Trudeau qui va le faire. Deuxième dossier où QS a eu l'air fou, c'est quand Mme Massé, la députée Manon Massé, a avancé que François Legault avait manqué de sensibilité en dénonçant Mme El-Gawabi au lendemain des commémorations de l'attentat de la mosquée de Québec. Come on. M. Legault n'a pas choisi Mme El-Gawabi. Il n'a pas choisi le calendrier. Ça lui a été imposé. Troisième fois où QS a eu l'air fou dans cette saga-là, et pour moi, c'est la plus importante de ces trois fois-là, l'Assemblée nationale a adopté une motion qui condamnait les propos de Mme El-Gawabi. La CAQ, le PQ et le PLQ ont voté en faveur de la motion. Québec solidaire, écoutez, Québec solidaire n'a pas voté contre la motion. Québec solidaire a préféré s'abstenir. Quand la motion est passée, ben, ils étaient aux abonnés absents. Ils n'ont pas voté, les députés solidaires. Si Québec solidaire avait voté contre la motion, je ne serais pas en train de vous dire qu'ils ont l'air fous là-dessus. Je verrais ça comme une affirmation claire et nette de leur conviction profonde. Mais s'abstenir là-dessus, c'est essayer d'avoir le beurre puis l'argent du beurre. C'est essayer de faire la split, le grand écart, en faisant semblant d'être fâché, mais de ne pas être capable de condamner. Et Québec solidaire a eu l'air fou. On voit un des visages de Québec solidaire, qui est un parti qui est, de façon parlementaire, là, une bonne forme d'opposition, pose des bonnes questions, force le gouvernement à disons, améliorer ses projets de loi, ses décisions, etc. Là-dessus, On ne comptera pas sur Québec solidaire pour défendre les Québécois quand les Québécois se font vomir dessus. Et je dis vomir à dessein parce que c'est un des verbes qu'elle a employé pour parler des francophones qui auraient été discriminés au Canada, Mme El Gawabi, quand on lui a fait remarquer que les francophones dans ce pays-là avaient subi de l'effacement aux mains des Anglos. Elle a dit que c'était une déclaration, je cite, « à vomir ».
Le Québec maintenant.
C'est une scène banale et magnifique à la fois. Un jeune couple qui danse dans une ville derrière eux. On voit les lumières de la ville parce que la scène se déroule en soirée. Deux jeunes qui dansent amoureux. C'est une scène qu'on peut voir n'importe où. C'est une scène normale. Ils sont jeunes, ils sont beaux. Et ce qu'on ne sait pas tout de suite, si on ne connaît pas le contexte, c'est que ce couple-là posait un geste de contestation politique parce qu'il dansait dans la ville de Téhéran, la capitale de l'Iran, où un mouvement populaire proteste depuis des mois contre la dictature islamiste. Thomas Junot est professeur à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa, spécialiste du Moyen-Orient et de l'Iran. Professeur Junot, bonjour.
Bonjour.
Expliquez ce qui est arrivé après que ces images-là eurent été tournées là, à Astiza Aghighi et à son fiancé Amir Mohamed Hamadi.
Alors, les deux danseurs, comme vous les avez présentés, ont mis le vidéo sur les médias sociaux. Et là, dans le contexte des protestations importantes qu'on voit en Iran depuis septembre dernier, le vidéo est devenu viral parce qu'évidemment, c'est une vidéo de contestation qui va à l'encontre des lois et des codes de moralité de la République islamique. Et on a vu là que toutes les protestations depuis septembre, c'est beaucoup parti en opposition à ça. Et là, tout récemment, ils ont été condamnés à 10 ans et demi de prison tous les deux pour avoir justement brisé ces lois-là.
10 ans et demi de prison, est-ce que c'est synchro avec les peines de prison généralement infligées pour des gestes semblables en Iran?
C'est difficile de répondre précisément à cette question-là parce que les peines infligées qui vont jusqu'à l'exécution, là, on en a vu plusieurs récemment, sont déterminées de manière arbitraire, là, selon le climat du moment, selon ce que le juge à ce moment-là veut accomplir. Ce qu'on peut dire, c'est que depuis quelques semaines, on voit une intensification importante là, des peines qui sont imposées aux contestataires, que ce soit pour des vidéos de ce genre-là, que ce soit pour ceux qui vont à la rue, pour ceux qui essayent de mobiliser, par exemple, dans les universités. Les peines sont sévères et il y a eu plusieurs exécutions, notamment par pendaison.
Dans le cas de ce jeune couple, professeur Junot, là, selon les lois de la dictature iranienne, qu'est-ce qu'on leur reproche? C'est quoi la transgression?
Il y a deux réponses à cette question-là. Il y a la réponse directe, c'est-à-dire qu'on reproche à un homme et une femme de s'être touchés en public, notamment d'avoir dansé en public, de s'être donné de l'affection en public, et ça, c'est pas permis. Mais au-delà de la transgression, entre guillemets, directe des codes de moralité imposés par la République islamique, il y a le symbole de contestation qui s'inscrit dans les protestations là, actuelles depuis septembre dernier. Puis dans le cas de ces deux individus-là, leur, entre guillemets, crime, c'est pas tant d'avoir dansé, c'est que le vidéo soit devenu viral. Si leur vidéo n'était pas devenue virale, puis s'ils étaient restés isolés sur les médias sociaux, ils seraient probablement pas condamnés à ce moment-ci. Alors, ce que le régime essaye de faire, c'est d'envoyer un avertissement sévère à la population iranienne pour essayer de les forcer à pas contester publiquement et ensuite mettre des vidéos sur les médias sociaux. Ça fonctionne pas très bien jusqu'ici, mais c'est clairement le message qu'on veut envoyer.
Si la vidéo n'était pas devenue virale, est-ce qu'on peut penser que ces deux jeunes-là n'auraient pas été emprisonnés pour 10 ans et demi?
Probablement pas, non. Probablement pas. Clairement, ici, ce qui a attiré l'attention, c'est le fait que la vidéo était devenue tellement virale. On le voyait partout, là, sur Twitter, sur TikTok, sur Instagram, depuis un petit bout de temps. Et donc, pour le régime, ce vidéo-là, il est viral, il est trop tard. Mais ce qu'on veut faire, c'est essayer d'envoyer un message à la population à l'avenir.
Ça fait des mois, depuis septembre, que la rue se révolte dans des manifestations qui, des fois, dégénèrent, dans des occupations de place publique, dans des gestes aussi de défiance comme celui de ce couple qui s'est mis à danser. Qui est en train de gagner présentement, le peuple iranien ou la dictature des mollahs?
À court terme, je dirais que malheureusement, la réponse, c'est que la dictature des mollahs est en train de gagner. Les protestations continuent, mais pour que la révolution triomphe, il faudrait voir une intensification sérieuse. Et ça, on ne l'a pas vu encore. Pour que vraiment la chute du régime soit imminente, soit vraiment une possibilité, il faudrait voir des grèves à grande échelle dans le pays là, qui paralyseraient l'économie. Puis ça, on n'a pas vu ça. Il faudrait voir des défections au sein du régime, au sein de l'armée. On n'a pas vu ça non plus. Donc, malheureusement, à court terme, je dirais que le régime est en train de gagner. Mais à long terme, le régime est en train de perdre. Parce que justement, ce que cette vidéo-là symbolise, et il y en a un paquet d'autres, là, c'est pas le seul, c'est celui qui est devenu viral, mais c'est absolument pas le seul. Ce que ça symbolise, c'est que le mur de la peur en Iran, pour des grands pans de la population, est en train de s'effondrer, ou en tout cas est devenu beaucoup plus fragile. Alors, le ressentiment au sein de la population à l'endroit du régime est beaucoup plus profond, beaucoup plus large qu'il l'était par le passé. Alors, à court terme, malheureusement, je pense que le régime gagne, mais à long terme, il est plus vulnérable que jamais. Là.
Professeur Junot, il y a une répression des mollahs du régime de la dictature là-bas en Iran contre son propre peuple, mais il y a aussi des répressions ciblées. On cible des Iraniens, des Iraniennes exilées qui ne sont pas sur le territoire. Je veux qu'on parle un peu de la journaliste Mahsi Alinejad. Elle est réfugiée aux États-Unis. Et à plus d'une reprise, le régime a envoyé des gens pour essayer de l'assassiner. Ça frappe un peu l'imaginaire.
Ça frappe beaucoup l'imaginaire. Le régime de la République islamique, depuis sa naissance en 1979, a plusieurs fois essayé, dans certains cas réussi, à assassiner des dissidents ou des opposants en exil. On a vu des attentats spectaculaires en Europe, par exemple, dès les années 80-90. Et dans le cas de cette journaliste-là, Mahsi Alinejad, qui est une militante en faveur des droits de la personne, des droits des femmes en particulier, contre le régime, en faveur de la démocratie, c'est une des voix les plus importantes, les plus impressionnantes là, dans la diaspora. Il y a eu plusieurs tentatives d'assassinat connues, et puis c'est très probable qu'il y en ait qu'on connaisse pas publiquement, et sa vie est clairement en danger. Puis elle est aux États-Unis, comme vous l'avez dit, mais on sait aussi, même si les détails sont rarement clairs, qu'il y a eu des tentatives au minimum d'intimidation contre des dissidents iraniens au Canada aussi. Alors, on n'est pas à l'abri ici. Là.
Comment on s'y prend pour intimider des gens qui sont au Canada, comme ça, du côté de la République islamique?
Il y a plusieurs façons. La République islamique a beaucoup d'expérience dans l'intimidation et la répression des dissidents. Une façon de le faire, si les dissidents en exil ont de la famille en Iran, on va mettre de la pression sur la famille en Iran pour essayer de faire taire ceux qui sont à l'extérieur. Puis par pression, je veux dire pression très sévère, là, on menace de les emprisonner, de les torturer. Là, c'est pas une petite pression innocente. Là. Ceux qui sont à l'étranger, il y a différentes formes de chantage, il y a différentes formes de menaces, y compris des menaces physiques. Il peut y avoir de l'intimidation en ligne, ça on en voit beaucoup aussi. Le menu d'outils que la République islamique a pour ça est très diversifié, puis c'est un menu que la République islamique utilise beaucoup. Là.
Donc, ce ne serait pas étonnant que des gens au Canada soient aussi un jour ciblés par des tentatives d'assassinat, comme on a vu pour Mahsi Alinejad, qui est dans la région de New York.
Ça ne serait pas étonnant du tout. Des tentatives d'intimidation et de pression, il y en a beaucoup, et ça va continuer, et ça va probablement s'intensifier, parce que comme on a dit il y a 3 minutes à votre question précédente, même si en ce moment la République islamique semble être capable de rester en vie, à long terme, elle est menacée. Et en étant menacée à plus long terme, sur 6 mois, 12 mois, plus, des dissidents en exil qui vont agiter pour la démocratie dans le pays, il y en aura plus. Alors, moi, si je peux faire une prédiction, c'est que des menaces contre les dissidents iraniens ici au Canada, il y en aura plus dans la prochaine année que par le passé. Là.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Toujours éclairant de parler avec vous.
C'est moi qui vous remercie.
À la prochaine. C'était Thomas Junot, professeur à l'Université d'Ottawa. Il est spécialiste du Moyen-Orient et de l'Iran depuis le début des manifestations là, en septembre. 14 000 personnes, selon les Nations unies, ont été arrêtées par le régime en Iran.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Le sud-ouest américain dépend beaucoup, beaucoup pour son approvisionnement en eau de la grande rivière Colorado. Et là, le Colorado est en train de s'assécher. Ce que ça fait, c'est que il y a un pacte qui date de 1922 là, qui donne les allocations d'eau aux différents États. Mais là, ces sept États-là doivent négocier pour trouver une façon de réduire leur consommation. Ce sont des négociations très difficiles. Il est même possible que le gouvernement fédéral doive unilatéralement décréter quels États vont avoir quelle allocation en eau. Il s'agit du Colorado, du Nouveau-Mexique, de l'Utah, du Wyoming, l'Arizona, la Californie et le Nevada. C'est là qu'on s'en va immédiatement rejoindre Laurent Garrigue, qui est journaliste indépendant à Las Vegas. Laurent, bonjour.
Bonjour Patrick.
Laurent, expliquez aux gens à quel point le Colorado est important dans la vie des gens du sud-ouest américain.
Le Colorado, Patrick, c'est un fleuve déjà très long, hein, qui fait plus de 2000 kilomètres et qui permet surtout d'apporter de l'eau à toute cette partie du sud-ouest des États-Unis, de l'eau pour arroser les cultures, évidemment, aussi pour permettre aux gens d'avoir de l'eau potable et surtout pour avoir de l'électricité puisqu'il est relié directement avec les barrages Hoover et les barrages du Glen Canyon qui permettent d'alimenter 40 millions d'Américains du sud-ouest des États-Unis en électricité.
Qu'est-ce qui cause une baisse importante, dramatique du débit d'eau de la rivière Colorado?
Ça fait à peu près, Patrick, une vingtaine d'années que le Colorado connaît une véritable sécheresse parce que malgré une fonte des neiges parfois importante et surtout des tombées de neige très importantes dans les Rocky Mountains, le problème vient que lors de la fonte des neiges, l'eau qui descend dans le Colorado et qui devrait lui permettre de gonfler, eh bien cette eau, la plupart du temps, elle fond bien avant, elle est absorbée par les sols parce que ça fait une vingtaine d'années, comme je disais, que cette partie des États-Unis connaît une sécheresse catastrophique. Résultat, l'eau qui arrive des montagnes ne suffit plus à alimenter le Colorado. Et donc, d'année en année, son niveau diminue.
Et là, les sept États qui s'alimentent avec le Colorado sont en négociation. En quoi consistent ces négociations?
Alors, ces négociations, malheureusement, Patrick, elles n'ont pas abouti puisqu'elles se sont terminées hier, au 31 janvier, puisque c'était la date limite fixée par l'État fédéral. Ces négociations, c'était très simple. Il s'agissait pour ces sept États de s'entendre sur une réduction de leurs allocations. On a six États qui ont pu s'entendre en fixant des réductions de plusieurs centaines de milliers d'acres pieds d'eau, mais malheureusement, la Californie a refusé cet accord, affirmant qu'ils allaient en proposer un autre.
Et là, je crois que c'est aujourd'hui ou demain là, que la Californie doit soumettre son offre?
Tout à fait. La Californie a donc fait une offre un peu en solitaire, on va dire, de réduire de 400 000 acres-pieds son allocation. Ça n'est pas suffisant, malheureusement, puisque les six autres États pensaient, eux aussi, réduire fortement leurs allocations. Mais si on prend le plan de la Californie ainsi que celui fait par les six autres États, le plan de la Californie réduit un peu moins les allocations. Donc, ça pose un vrai problème pour l'avenir de toute cette partie des États-Unis.
Ce qui est absolument certain, c'est que ces 40 millions d'Américains-là vont devoir rationner leur eau. C'est déjà commencé. Comment ça pourrait affecter la vie quotidienne de l'industrie, des citoyens dans les prochaines années, là, dans ces sept États du sud-ouest américain?
Alors, il est difficile de se projeter, mais on peut facilement imaginer qu'il va falloir réduire sans doute les débits d'eau pour les cultures. Donc, c'est la première conséquence. Ça veut dire peut-être faire moins de cultures, avoir moins de choses, moins de produits, moins de fruits, moins de légumes venant de Californie, venant d'Arizona et d'autres États. Après, il y a aussi surtout la problématique des citoyens. Est-ce que ils auront suffisamment d'eau potable? Notamment, puisque si on prend le cas du Nevada, 90% de la population du sud du Nevada, hein, du Southern Nevada, dépend totalement du lac Mead, qui est lui donc alimenté par le Colorado, pour son eau potable. Ça, c'est des vraies problématiques. Et puis, il y a surtout la problématique à terme de l'électricité, comme je disais, parce que l'inquiétude, c'est d'arriver à ce phénomène qu'on appelle le dead pool, c'est-à-dire à un moment donné où l'eau du Colorado ne suffit plus à alimenter les deux barrages. Et donc, on ne peut plus produire d'électricité. Et ça, ça c'est, je pense que c'est l'inquiétude majeure aujourd'hui de tous ces États, c'est de se dire comment est-ce qu'on va pouvoir assurer l'électricité de 40 millions d'habitants.
Est-ce qu'il y a un plan B? Est-ce qu'il y a, je sais pas, une centrale nucléaire quelque part qui peut prendre une partie de la puissance nécessaire?
Non, pour l'instant, non, il n'y a pas, ça c'est pas des sujets évoqués. Le point positif qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que les chutes de neige ces derniers mois ont été très 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 importantes dans les Rocky Mountains, et certains observateurs considèrent que peut-être le niveau du Colorado va pouvoir un petit peu remonter, ce qui donnerait un ou deux ans peut-être d'air pour chaque État, mais rien n'est encore assuré. On sait que la Californie a lancé un projet il y a l'année dernière, et Nevada d'ailleurs a participé aussi financièrement, a lancé un projet d'étude pour la construction d'une usine de désalinisation d'eau. Ce serait peut-être une solution pour apporter de l'eau à une partie du sud de la Californie, mais aujourd'hui, non, il n'est pas fait état de d'aide. Maintenant, on attend, comme vous disiez au début, c'est que peut-être le gouvernement fédéral qui va dire, voilà, on vous réduit vos allocations drastiquement, vous de temps et tel État de temps.
Donc,
on ne sait pas encore.
Si les 7 États du sud-ouest américain n'arrivent pas à une entente, c'est le fédéral qui a l'autorité ultime.
Tout à fait. C'est le fédéral qui décidera, et là, malheureusement, les États n'auront sans doute pas leur mot à dire, et ça peut risquer de faire mal. C'est-à-dire que les allocations peuvent être plus importantes, les réductions plutôt d'allocations peuvent être plus importantes que ce qui était prévu initialement dans les plans proposés par ces 6 États et d'un côté, de notre côté, par la Californie.
Il me semble que c'est encore relégué aux pages intérieures des journaux. Il me semble que 40 millions de personnes là, qui vont voir leurs allocations en eau réduire vraiment drastiquement, il me semble que c'est pas à la une des médias nationaux. Est-ce que je me trompe?
Non, c'est vrai que c'est plutôt aujourd'hui les journaux locaux. Alors les journaux locaux, évidemment, façon de parler. Hein, en Californie, c'est le LA Times qui en parle. Dans le Nevada, c'est le Las Vegas Review Journal. Mais c'est vrai que c'est quelque chose aujourd'hui, peut-être qui touche moins encore les Américains, parce qu'on sait que dans le nord-ouest des États-Unis, il n'y a aucun problème d'eau. Le Montana, l'Oregon et d'autres États, même le nord de la Californie et le nord du Nevada n'ont pas ce genre de soucis. Mais c'est vrai que... Je pense que d'ici quelques mois, c'est quelque chose qui va prendre un peu le pas, et beaucoup d'Américains vont se rendre compte de ce qui se passe vraiment dans le Sud-Ouest, parce que 330 millions d'habitants aux États-Unis, 40 millions qui seraient directement touchés par cette problématique, c'est quand même énorme.
Merci d'avoir été avec nous, c'est inquiétant. Merci de nous avoir fait le portrait du Colorado, Laurent Garrigues.
Merci, Pat.
Salut. Laurent Garrigues est journaliste indépendant à Las Vegas.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.